métier des médias.
Il faut qu'on vous fasse une confidence. On a eu envie, à quelques jours de la sacro-sainte Saint-Valentin, de proposer une série de deux émissions sur les amours, mais surtout sur ces amours connectés.
Dans ses bras, tu tombes à 300 000 km secondes. Dans ses bras, tu sens le poids de ton monde.
Ils se sont rencontrés sur un sitcom mythique, ils s'envoient des sextos tout du long de la journée, voire ils ne cherchent que de simples relations sexuelles en faisant défiler des profils sur des applications de rencontres géolocalisées. Alors, comment comprendre cette métamorphose de notre intimité à l'épreuve du tous connecté ?
Une des clés de lecture importante, c'est de comprendre ce changement des parcours amoureux. Le premier changement important qu'il y a eu, c'est qu'on se met en couple plus tard. Donc ça veut dire que les jeunes ont une période plus longue où ils font des rencontres diverses, qui sont des relations plus ou moins longues, plus ou moins stables. Les sociologues et les démographes parlent aujourd'hui d'une période de jeunesse sexuelle, qui est cette période avant l'installation conjugale où les gens font des rencontres et vivent des expériences diverses.
Ce que nous dit d'emblée Marie Bergström, sociologue spécialisée dans le couple et la sexualité, c'est la chose suivante. C'est cette période de jeunesse sexuelle qui explique pourquoi ces jeunes sont si nombreux sur ces nouvelles plateformes de rencontres. Mais contrairement à une idée reçue, les jeunes n'ont pas le monopole de l'amour connecté.
Il y a un autre changement important qui a eu lieu, et c'est l'augmentation des séparations. Et ça, c'est aussi une clé importante pour comprendre le succès des sites, notamment chez les personnes un peu plus âgées. Parce que quand on s'est séparé, et si on a envie de se remettre en couple, on rencontre rapidement le problème que la plupart des gens dans son entourage est déjà en couple. Et qu'est-ce qu'on fait ? Les sites, à ce moment-là, dans ce contexte-là, permettent de rencontrer des personnes au-delà de son cercle de sociabilité. Donc, je ne dirais pas que les sites changent les parcours amoureux. Je dirais que c'est le changement des parcours amoureux et conjugaux qui, en grande partie, peuvent expliquer le succès des sites aujourd'hui.
Et est-ce que le numérique change quelque chose à l'infidélité, à la jalousie ?
Je pense y a une image forte des sites comme un facteur d'augmentation de l'infidélité. Ce qu'on voit surtout, c'est qu'il y a beaucoup de sites qui se promeuvent pour des rencontres infidèles. Ce sont des sites avec un marketing très agressif. Ce sont des sites qui ont une publicité très forte. Et ils donnent cette idée qu'il y a une augmentation de l'infidélité. Les enquêtes ne permettent pas de le montrer. Donc, cette présence des sites infidèles, c'est plutôt un phénomène marketing qu'un phénomène social.
Bonjour Manon.
Bonjour Julien.
C'est toi qui es allée à la rencontre de ces amoureux connectés.
J'ai rencontré Juliette, Martine, Florian, Brice et Thomas. Ils ont tous vécu une ou plusieurs expériences amoureuses en ligne. De Tinder à Happn et même sur Chatroulette, toutes ces histoires ont un point en commun. Elles ont d'abord débuté sur les réseaux. Avant même de voir en chair et en os l'être convoité, ils ont d'abord eu affaire à un profil, à des photos et à des chats. Finalement, la rencontre physique n'est plus nécessairement la première étape d'une histoire. Si ces amoureux connectés sont nombreux, on en connaît tous autour de nous, ça n'a pas été aussi simple de trouver ces témoignages, car au milieu de tout ça, il y a aussi beaucoup de pudeur. Ces amoureux modernes m'ont ouvert la porte de leur appartement, chaleureusement. Tour à tour, je me suis assise sur leur canapé et puis on a parlé, en essayant d'oublier le micro. Ils m'ont invitée dans leur intimité et parfois on est remonté loin dans les souvenirs.
L'atelier des médias, à l'écoute de la société numérique et de l'innovation.
Ok, je m'appelle Florian, j'ai 33 ans et je vis à Paris. La première fois que je me suis inscrit sur un site, je crois que j'avais 22-23 ans et c'était, je veux pas te dire de bêtises, mais aux alentours de 2005-2006, ouais 2005, avec Mythique en fait. J'ai, à l'époque où c'était un peu mal vu d'utiliser les sites de rencontres et où on cachait un peu ça.
Je t'ai dit, va sur Tinder, parle à des meufs et tu vas vite oublier.
Mais n'importe quoi.
J'ai vachement réfléchi à ça aussi sur la façon dont on est perçu ou dont on se laisse percevoir quand on est sur les applis de rencontre, parce qu'on se met en avant, on peut se faire passer pour n'importe qui, pour un pilote de chasse ou un astronaute, enfin, je caricature un peu, mais moi j'essaye d'être le plus vrai possible pour pas qu'après il y ait une trop de différence par rapport à la rencontre et que la fille soit pas déçue ou au contraire s'attende pas à plus ou... Et puis même moi, j'ai pas envie de baratiner, d'être trop dans l'escroquerie. J'en rajoute pas et je crée pas un personnage virtuel. Je suis le même. Après, la différence qui peut être notable, c'est que quand t'es sur une application, tu prends le temps. Alors des fois, tu peux aussi bien être en caleçon dans ta chambre ou en train de faire ou dans le métro, mais finalement, tu choisis le moment où t'es bien et tu vois. Tandis que le feeling peut passer par message, tu peux avoir la niaque et le jour du rendez-vous, tu peux être malade ou être fatigué ou t'as un problème au boulot ou dans la vie et tu vois, t'as pas le moral. Finalement, quand t'enchaînes par message, virtuellement, tu gères ça quand t'es bien, mais le réel, ce qui peut différencier, c'est que moi je suis drôle et je me trouve cool. Enfin, je me trouve normal. Mais c'est vrai que si au rendez-vous j'ai super mal au crâne et tout, je serais pas aussi drôle et aussi, tu vois, sympa que mon alter ego virtuel, en fait.
Et comment tu te décris sur les applis de rencontre où il faut justement renseigner une description?
Alors, à un moment, je mettais rien. Et c'est drôle. Hein.
Pourquoi tu mettais rien?
Bon, je me disais, il y a les photos qui parlent pour elles. Après, quand je suis rentré d'Australie, j'avais plus de photos, vraiment. J'avais des vieilles. Et j'ai mis des photos, mais qui n'étaient pas forcément bien et qui ne fonctionnaient pas si bien que ça, en fait. Je me suis rendu compte. Et donc, j'avais mis une bio. Donc, moi, ma bio, elle est en anglais. Et je sais plus ce que j'ai mis. J'ai pas mis un truc de flambeur. Au début, je mettais ce que j'aimais. Voyager, faire du sport, les activités en dehors, la randonnée, ce genre de choses, la photographie et tout. Et en fait, j'aime pas trop dire ce que je fais, enfin que je fais des photos, que je réalise des films et je voulais être simple. Donc j'ai mis, attends, je vais te montrer si. Alors j'ai mis chill, adventurous, open-minded et un truc du style I don't take life too seriously, tu vois.
En français, ça donne quoi?
Je prends pas la vie trop au sérieux, ouvert d'esprit, aventureux et plutôt relax, tu vois. Et je pense que ça me décrit bien en plus. Après, on a toujours tendance à en faire, tu vois, en faire plus ou rajouter des trucs trop cool. Moi, je trouve que c'est simple. Je pense vraiment que c'est moi. Et ouais, que ça me représente bien. Voilà. Donc, je me survends pas, tu vois.
Et comme photo, tu mets quoi?
J'ai une photo, c'est la même que mon profil Facebook. Je m'étais renseigné. Et je sais que pour les garçons et les femmes, ce sont pas les mêmes photos qui plaisent. Par exemple, les femmes, les photos qui plaisent, c'est les photos où elles regardent la caméra et où elles regardent l'objectif. En gros, et elles sourient. Et ça, c'est un truc qui fonctionne. Les mecs aiment ça. Par contre, les nanas... J'ai vu des études de pourcentage. Les nanas apprécient moins les mecs qui regardent directement l'objectif. Il y a des trucs. Donc, en fait, pour un mec, il serait conseillé d'avoir le regard un peu vague, un peu lointain, genre je réfléchis et tout. Donc, ça, c'est ma photo de Tinder, la première. C'est une photo où on me voit avec ma casquette, là, j'ai un cœur dessus, d'ailleurs, et où je regarde un peu le lointain, tu vois. C'est un plan épaule, assez serré. La seconde, c'est un plan de face qui m'arrive, on va dire, à la taille ou un peu en dessous, où je regarde l'objectif et je lève le pouce, une classique. Et après, une où je souris et voilà. Mais j'ai essayé de suivre l'idée pour voir si ça fonctionnait vraiment, et ça fonctionne.
Sur les sites de rencontres, on choisit sa photo, sa biographie, où on est le plus souvent à son avantage. Que dire de cette mise en scène de soi permanente ?
C'est vrai, sur les sites, on se met en scène, on se met en avantage. Et je dirais que c'est quelque chose qui est inhérent à la situation de séduction et qu'on retrouve aussi ailleurs. Si on regarde, par exemple, des lieux de sortie comme les bars ou les boîtes, mais aussi, par exemple, les dîners entre amis le week-end, on voit bien que pour ces occasions-là, et sans doute a fortiori si ça implique des personnes qui sont célibataires, qui ont envie de rencontrer quelqu'un, on voit que les personnes se sont mises en scène. Ils ont porté un certain soin à leurs habits, à leur coiffure, et pour les filles aussi, au maquillage. Donc, les situations de séduction, que ce soit en ligne ou hors ligne, impliquent une mise en scène de soi pour plaire, pour se mettre en son avantage. C'est vrai que c'est différent sur le site parce que ça passe par des photographies, une présentation soignée de soi. Mais je ne pense pas que la mise en scène de soi est plus forte sur ce site qu'ailleurs, c'est plutôt les contextes de séduction qui ont cette particularité à ce qu'on s'habille autrement pour une soirée que quand on va au travail, par exemple.
Est-ce qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes, justement, au niveau de la mise en scène de soi ?
Sur la mise en scène de soi, les différences sont plus marquées entre milieux sociaux. Là, on voit effectivement qu'il y a différentes manières de s'approprier les sites de rencontre, d'utiliser les sites. Il y a différentes normes de qu'est-ce qu'on doit mettre en avant, comment on fait les photographies, comment on se décrit. Ça, on voit des différences assez nettes. Et c'est d'ailleurs un des facteurs qui participent à l'homogamie en ligne. C'est-à-dire cette tendance à former un couple ou à rencontrer des personnes qui sont socialement semblable, similaire à soi-même. C'est parce qu'il y a, il y a différentes manières de faire sur les sites, différentes manières de se présenter, et ça, c'est autant de critères de sélection, qui sont notamment des critères de sélection sociale sur les sites. Et on peut citer juste un exemple, et c'est l'écrit. Il y a une forte intolérance envers l'orthographe, la mauvaise orthographe sur les sites rencontres. Donc c'est une intolérance qui exprime des personnes issues du milieu favorisé, scolairement doté, envers des personnes qui sont moins dotées en diplôme. Et c'est une sélection sociale qui est très nette. Et c'est une intolérance qui est très forte, qui fait que les personnes diplômées vont rejeter, éliminer toute partenaire qui, ou personne qui les contacte et qui ne les contacte pas dans les formes de ce qu'ils attendent être une bonne écriture, une bonne manière d'écrire, une bonne manière de contacter. Donc ça, c'est quelque chose qui est très net.
L'atelier des médias, à l'écoute de la société numérique et de l'innovation. You don't know me. I'm not just one of your many toys. You don't know me. Don't say I can't go with other boys.
En fait, j'étais célibataire après un divorce et un jour ma fille, c'est elle qui m'a inscrite sur un site de rencontre, voilà. Et j'étais pas du tout d'accord.
Bonjour, je m'appelle Martine et j'ai 59 ans.
Quels étaient les arguments alors de votre fille?
En fait, elle, je pense qu'elle voulait absolument que je rencontre quelqu'un, alors que moi, j'avais décidé au moment où elle l'a fait que ma vie serait sans homme fixe, en tout cas. Enfin voilà, ce serait ma vie. C'était comme ça, j'avais plus envie de souffrir, et puis c'était comme ça. Voilà. Que si ça devait se faire, ça se ferait, mais que je ne revivrais plus quelqu'un, sérieusement, on va dire, voilà.
Donc du coup, votre fille vous a inscrite sur un site de rencontre, et alors elle vous a montré comment on faisait.
Alors je me suis dit, bon d'abord j'ai un peu grondé, et puis après je me suis dit, bon ben, on va regarder, c'est drôle. Enfin, c'est drôle, les hommes qui... Parce que comme je m'étais pas montré vraiment un pin-up ou quoi, je me suis dit, il y aura personne. Et en fait, j'avais plein de montres. Et ça m'a... j'étais prise au jeu, je rigolais. Donc, on regardait les profils, et puis elle s'arrêtait sur un profil. Mais pas trop par rapport aux photos de cet homme-là, par rapport à ce qu'il disait, ce qu'il mettait. Et elle m'a dit, maman, il n'y a pas de faute d'orthographe. Parce que j'aime pas les hommes qui font des fautes d'orthographe. Et elle me dit, regarde, bon, voilà.
D'accord. Et il racontait quoi alors? C'est dans sa biographie, c'est ça?
Oui, en fait, non, il mettait pas des choses. Ça changeait des autres hommes qui mettaient toujours, enfin, presque, c'est des êtres parfaits, sans défaut. Et lui, c'était plus ses activités, ce qu'il faisait, ce qu'il aimait, enfin, pas trop. C'était pas, je pense, pour lui, pour rencontrer une femme, pour faire sa vie avec, je pense pas. C'était plus. Pour échanger, avoir une amitié ou amoureuse ou pas, enfin voilà quoi, c'était plus ça. Et puis surtout, ce qui m'a fait rire, c'est qu'il disait que on lui avait demandé un mariage 3 fois déjà dans sa vie, qu'il avait refusé. Et ça, j'avais trouvé ça drôle. Et bon, voilà, je lui avais répondu un commentaire style il était macho ou je sais pas trop quoi, et voilà.
Et vous avez parlé de quoi alors?
Ben en fait, moi, comme je suis quelqu'un, je suis pas très pour écrire pendant des heures. Je lui ai dit ben peut-être on peut s'appeler. Parce que je trouvais que ce qu'il répondait était intéressant, intelligent. Enfin, j'ai laissé mon numéro, j'ai dit, voilà, vous me rappelez et on va s'appeler. Enfin voilà, c'est plus par rapport à ce qu'on a échangé de façon voilà, qui m'intéressait un peu, peut-être pour une amitié. Puis je me suis laissé prendre au jeu aussi, voilà.
Donc du coup, vous l'avez appelé et ensuite...
On est resté très longtemps au téléphone parce que je trouvais qu'il avait une voix très sympa. J'avais l'impression d'avoir un ami d'il y a 20 ans. On a rigolé, on a vraiment rigolé au téléphone. Et du coup, je lui ai dit, bah, on va se voir, c'est bête, mais c'est moi. Je suis comme ça, il faut que je voie les gens. Voilà. Et puis, ben voilà, on s'est donné rendez-vous, on s'est vu, et c'est comme ça.
Et du coup, quand vous l'avez vu pour la première fois, est-ce qu'il était comme vous l'imaginiez quand vous lui parliez sur Internet et au téléphone ?
Alors déjà, physiquement, il n'était pas du tout dans la séduction. C'est-à-dire, il avait un sac à dos, il revenait de je sais pas d'où, enfin voilà, un peu en guerrier, pas du tout comme un séducteur qui a envie de séduire une femme. Ça j'ai aimé quand même, l'air de rien, parce que je me suis dit bon, j'ai trouvé extrêmement sympathique tout de suite.
Et vous, est-ce que vous vous êtes mis sur votre 31 ?
Ah ouais, moi en plus je revenais de vacances, donc j'étais bronzée, j'avais mis ma jupe, talons, oui tout, mais pas. Parce que j'avais envie d'être comme ça, et puis je me suis dit, autant que tu t'habilles en femme, quoi. T'en jouais le jeu jusqu'au bout, voilà. Oui, moi j'étais, c'était pas en séduction, mais j'étais, je me suis faite quand même jolie, quoi. J'avais pas envie d'y aller comme je peux être des fois, décontractée ou quoi.
Et maintenant, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble alors ?
Ça fait plus de 6 ans, voilà.
Qu'était juste à faire now? They're going insane.
Bonjour, je m'appelle Brice, j'ai 30 ans et je suis utilisateur de l'application Happn. Et la fille que je vais rencontrer là d'ici quelques minutes, je l'ai donc rencontrée sur cette application. Et voilà, donc on va aller prendre un verre ensemble et faire connaissance.
Est-ce que tu peux expliquer quel est le principe de l'application Happn ?
Happn, ce sont des personnes qu'on a pu peut-être croiser dans la rue. Après, pas physiquement sur le même trottoir ou quoi que ce soit, mais peut-être à quelques mètres et tout. Et voilà, ça permet ensuite de les retrouver comme ça, d'être géolocalisé avec ces personnes et ensuite de pouvoir les rencontrer si on se plaît tous les deux, grosso modo.
Par exemple, quand tu te lèves le matin et que tu t'apprêtes à aller te balader tout seul dans la rue, t'actives en fait ton application et en fait le soir quand tu rentres chez toi, t'as un espèce du coup de listing de toutes les personnes que t'as croisées dans un certain périmètre. C'est comme ça que ça fonctionne ?
Exactement. C'est exactement comme ça que ça fonctionne.
Et tu l'utilises beaucoup ?
Oui, souvent, oui. Je regarde un petit peu, enfin voilà, les personnes que j'ai pu croiser. Et donc ensuite, alors après, c'est uniquement effectivement sur photo. Donc si la personne qu'on a vue, nous intéresse, on clique sur un petit cœur. Et si c'est réciproque, eh bien, ça nous dit tout simplement qu'on a un crush.
D'accord. Et ensuite, ça ouvre une fenêtre de conversation. Et là, tu peux commencer à parler avec la personne. Et donc là, du coup, t'as discuté pendant combien de temps avec la fille que tu vas rencontrer là dans quelques minutes ?
Alors avec cette fille, ça fait à peu près une semaine qu'on commence à parler, etc. Donc ça avait l'air de plutôt bien se passer par message. Donc après, on espère toujours que de bien s'entendre aussi avec elle. Et effectivement, après la rencontre réelle, c'est vraiment complètement différent.
Et est-ce que là, tu te fais déjà une idée de ce qu'elle est ? Est-ce que tu as déjà un peu des attentes ? Enfin, je veux dire, comment tu l'imagines ?
On s'imagine aussi pas mal de choses. On se dit alors, bon, comment elle va être ? Quel humour elle peut avoir aussi ? Enfin, etc. Et c'est vrai qu'on a toujours un petit peu cette appréhension derrière tout ça. Mais là, oui, moi, la personne que je vais rencontrer, enfin, je m'imagine une fille un petit peu, enfin, de ce que j'ai pu parler avec elle aussi via l'application, une fille un petit peu, comment dire, enjouée aussi et rigolote. Et je l'imagine comme ça pour l'instant.
Alors, je vais peut-être pas te retarder. Je te laisse y aller. Et du coup, on se retrouve tout à l'heure. Tu m'envoies un message quand c'est fini. Moi, je vais faire un tour. Et voilà, comme ça, tu me raconteras comment ça s'est passé.
Ça marche. Ok, à tout à l'heure. À tout.
J'ai donc retrouvé Brice 2 heures après son rendez-vous. Il était plutôt content. Il m'a dit qu'elle était bien fidèle aux photos, fidèle à l'image qu'il se faisait d'elle. Il n'a pas rencontré le grand amour, mais au moins, il a tenté sa chance.
Comme d'ailleurs tous les personnages de cette émission. Après la pause, on continue d'explorer ces amours connectés et on parlera de sexto, de rencontres sur Grindr et de chatroulette. A tout de suite, après le flash. Écho d'ici et des médias, seconde partie. On continue notre traversée sonore sur les métamorphoses de l'amour à l'heure des réseaux, du sexto et des sites de rencontres. On l'a bien compris avec les témoignages de Florian, de Martine ou de Brice. Les amours connectés, c'est d'abord une mise en scène de soi sur son profil. C'est aussi une aventure qui peut vous arriver à tous les âges de la vie. Et c'est enfin, ou plutôt surtout, la possibilité d'une rencontre dans la vraie vie. D'ailleurs, que se passe-t-il une fois qu'on s'est rencontré?
L'atelier des médias, à l'écoute de la société numérique et de l'innovation.
En fait, j'ai rencontré donc ce mec qui travaillait pour un festival pour lequel moi-même je travaillais. Et lui, il faisait un concert là-bas, il est musicien. J'étais encore en couple à ce moment-là. Donc je m'appelle Laura, j'ai 25 ans. On s'est juste beaucoup plu et on a surtout dansé toute la nuit assez follement. Et lui, il travaille à Paris. Il m'a dit très tard hein, qu'il avait une copine. Mais bon, il me l'a quand même dit. Et donc, on s'est changé nos numéros et on a commencé à parler par WhatsApp. Et là, on a pris un premier café. On s'est revus à Paris en journée. Et à la fin de cette journée-là, il m'a embrassé. Et donc, ça a commencé comme ça. Il m'a juste embrassée parce qu'on a, on a juste un peu craqué. On va dire ça comme ça. Mais en fait, ensuite, ça a débouché sur une relation d'abord par Telegram, donc par cette appli. De textos de plus en plus chauds, d'avance de plus en plus directes, jusqu'à arriver très clairement ce qu'on appelle des sextos.
Des sextos, donc d'un mélange entre textos, donc SMS, et sexe. Donc ouais, c'est des messages très, très sensuels.
Ouais. C'était, alors donc, là encore, moi j'étais avec mon mec à cette époque. J'étais parce qu'en fait je l'ai quitté peut-être 2 semaines après ce café. Donc disons que ça a juste été pour moi une manière de pas continuer dans ce genre un peu malsain qui est de vouloir être avec quelqu'un qui est pas, avec qui on n'est pas en couple et d'être avec quelqu'un en couple à qui on ne veut pas être. Enfin, pour moi les choses ont été assez claires. Donc ça a été des sextos pendant au moins peut-être 1 ou 2 semaines. Quand je te dis sexto, c'était vraiment de plus en plus explicite, des trucs trop drôles, quoi. C'était vraiment faire l'amour par téléphone. C'était vraiment j'adorais pouvoir te faire ça. Je me rappelle quand on dansait ensemble, est-ce que tu te rappelles? Parce qu'en fait, j'avais une érection, tu t'en as rendu compte? Bah oui, je m'en étais rendu compte. Bah on s'est avoué qu'on était devenus un peu fous tous les deux, qu'on aurait vraiment eu envie d'aller plus loin ce soir-là, de vivre nos pulsions, en fait. Ça s'accompagnait de photos de ma part, pas du tout pornographiques, mais érotiques, c'est-à-dire un peu cachées, quoi, mais quand même. Et lui, par contre, des photos très explicites, qui, moi, me faisaient mourir de rire, parce qu'en fait, je prends jamais tout ça au sérieux, mais pour parler très écrûment, voir un pénis en photo, ça me fait rigoler, mais ça m'excite pas, quoi. Voilà, je pense que peu de femmes sont vraiment attirées par ça. On fonctionne plus dans la métaphore ou dans des choses un peu plus dans la suggestion, quoi. Mais voilà, moi, ça me faisait rigoler et surtout, j'avais décidé de vivre ça à fond, puisque ça faisait longtemps que j'avais pas eu un désir de cette sorte-là, quoi. Feel so
good. You're lying here next to me. Bonjour, je m'appelle Thomas et je suis utilisateur d'appli gay.
Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Grindr?
Par exemple, tu télécharges l'appli. Et là, tu vas tomber sur une grille de mecs qui sont autour de toi. Donc, le premier mec qui est, par exemple, tout en haut, à gauche de ton téléphone, en fait, ça va être le mec qui va être le plus proche de toi. Alors que le mec qui est tout en bas, à droite, ça va être la personne qui va être la plus loin de toi. Donc, en fait, c'est comme si tu voyais tous tes voisins gays qui sont en direct aussi sur l'application à disposition. Donc ensuite, quand tu cliques par exemple sur tel ou tel profil, tu vas voir la description en entier de cette personne-là et après tu peux chatter directement avec cette personne-là. Et tu vois à combien de mètres il est de toi. Donc là par exemple, là c'est moi, ouais. Ok. Là par exemple, t'as ce mec-là qui est à 2 mètres de moi.
À 2 mètres ?
Bah ouais, c'est marqué 2 mètres. Donc il doit être au-dessus ou à l'étage du dessous, tu vois par exemple.
C'est super proche.
Oui, c'est super proche, ouais.
Et tu...
Non, non, il est pas dans la chambre. Et tu vois, il a marqué un petit descriptif, etc. Donc en fait, quand tu cliques dessus, tu vois sa photo, tu vois son âge, etc. Donc là, il a pas mis plus de choses que ça parce que il a pas voulu. Il a mis un petit descriptif et puis point barre. Ici, quand tu cliques ici, tu vas pouvoir discuter avec lui.
Et ensuite, du coup, comment tu fais pour rentrer en contact avec la personne à partir de ces photos-là?
Bah, généralement, tu lui dis juste un bonjour, salut, hey, etc., etc. Et ensuite, tu vas, ça dépend le mood de la personne, ça dépend aussi comment tu es toi en ce moment. Mais généralement, tu vas commencer à discuter, à parler de sa photo, à partir de qu'est-ce que tu fais ici, que tu fais dans la vie, peut-être faire une petite blague sur sa photo, sur son profil, etc., etc. C'est comme ça que t'engages la conversation. C'est en fait comme si t'étais dans un bar. Et que t'allais draguer, et que comment aller vers telle ou telle personne, bah, c'est à travers un petit détail, ou c'est à travers une petite histoire qui s'est passée 2 secondes avant avec lui, etc., etc. C'est vraiment pareil, sauf que c'est sur le net.
Et toi, tu l'utilises beaucoup, cette application ? Enfin, tu y vas souvent ?
Ça dépend. Ça dépend, déjà, si t'es célibataire ou si t'es pas célibataire. Ça dépend si t'as besoin de quelqu'un ou pas. Ça dépend parce que ces applications-là, elles ont différents. Tu peux les utiliser pour différentes choses entre guillemets. Tu vas les utiliser par exemple juste pour rencontrer quelqu'un et faire l'amour entre guillemets. Mais tu peux aussi les utiliser pour rechercher quelqu'un. Entre les deux, t'as différents objectifs entre guillemets.
Est-ce que tu cherches l'amour sur les applications de rencontres ? Est-ce que pour toi c'est possible ?
Tu te dis que c'est possible parce que ça arrive à d'autres personnes, donc tu te dis pourquoi pas moi ? Mais après, vu comment ça se passe, tu te dis c'est vraiment de la consommation et si vraiment tu cherches l'amour, autant sortir dehors et puis là pour le coup, t'auras beaucoup plus de chances de trouver l'amour que sur des applications où t'as certaines personnes qui vont enjoliver leurs photos, leurs profils, etc. Et en fait, c'est faux, tu vas être déçu. T'as aussi beaucoup de personnes qui vont être juste là parce que elles ont juste envie que tu sois en leur lit, point barre. Et donc, forcément, tout le monde sait que quand t'es sur une application gay, généralement, c'est que t'es juste là parce que t'as juste envie de passer un bon temps, mais pas vraiment pour aller plus loin. Après, si le feeling se fait, etc., oui, pourquoi pas.
Toi, tu cherches l'amour?
Pourquoi pas, ouais.
L'atelier des médias à l'écoute de la société numérique et de l'innovation. RFI.
J'ai un petit geek sur mon compte mythique. Viens faire des zooms, viens faire des clics.
Des petits chats,
des flashs. J'ai comme un éclair, Shazam, LOL, blog, tweet. Wifi, toi, moi, je fais du ramdam. Lance-moi tes smileys derrière ta webcam. Ça fait
buzz,
ou
bug.
Parfois même
spam.
Shazam, lol, blog, tweet. Viens, petite geek, visiter mon site. Viens faire
j'aime
sur mes fichiers.
Zuck,
des
molcats,
des
box,
des tags à mes pets. Shazam, lol, blog, tweet. Viens, ce qui croquait dans l'Apple, suis mes liens, tu verras si tu
Google
mon statut
Facebook.
Je suis passé
Jingle
Shazam, lol, blog, tweet. ce geek sur mon compte mythique. Viens faire des zooms, viens faire des
clics, des petits chats,
des
flashs.
J'ai comme à mes clés, Shazam, lol, blog, tweet. N'aie pas peur des pirates et des hackers, des no,
life,
des non, des contrôle,
I'll
supprime, appuie sur
enter,
Shazam, lol, blog, anonymous.
Donc je m'appelle Juliette, j'ai 29 ans et j'ai rencontré mon mec sur Chatroulette il y a 6 ans et ça fait 6 ans que je suis avec lui. Alors le principe de Chatroulette, et c'est ça qui m'a plu, c'est que c'est un site qui te met en relation directe avec une webcam. C'est-à-dire que tu branches ta webcam et tu lances le site. Tu lances et ça tourne et ça tourne et tu tombes sur quelqu'un. Et si cette personne te plaît ou que tu es en train de faire autre chose, tu restes en connexion avec cette personne ou avec ce qui apparaît à la webcam. Et si ça te plaît pas, tu appuies sur Next. Et c'est un bouton qui permet de zapper les gens, tout simplement. Et en fait, tu n'as pas tout l'apparat qu'il y a sur les sites de rencontres traditionnelles, donc tu n'as pas de présentation, tu ne sais pas avec qui, quoi ou qui, tu te mets en relation. Et c'est un pur hasard, et c'est une roulette, quoi. D'où le nom de Chatroulette. Alors, ça fait c'est exactement 6 ans. C'est-à-dire qu'on s'est rencontrés en 2010, il y a la fin de l'année, octobre, novembre, par là. Donc, ça fait 6 ans pile poil.
Et comment vous vous êtes rencontrés ?
Alors, comment on s'est rencontrés ? J'étais une grosse utilisatrice de Chatroulette, c'est-à-dire qu'à l'époque, je travaillais dans la recherche à la fac et je travaillais essentiellement chez moi, donc devant mon PC, et mes distractions principales étaient aussi sur mon PC, donc sur Internet. Donc à l'époque, j'y passais des nuits entières, et lui aussi, puisqu'il est indépendant, il bosse chez lui. Et donc... J'étais branchée à ce truc-là, c'est-à-dire que je mets le site, j'ouvre la page, et puis soit je suis dessus, soit je fais autre chose, et puis je la laisse tourner, et le hasard de la rencontre fait que je parle ou pas à des gens. Et donc ce soir de octobre ou novembre 2010, je laisse le site tourner, donc je suis en relation avec essentiellement des pénis, des jeunes qui font la fête et qui laissent pareil tourner le site. Et je tombe sur un torse blanc avec un bout de bureau à hauteur de poitrine, et le mec se dandine et voilà, il me dit rien. Bon, je fais autre chose, je travaille sans doute, et le mec me parle, et au final je dis bon, bah on va lui parler, pourquoi pas. Et je voyais juste une partie de du bas de son visage. Et de son sourire, en l'occurrence, et il avait une dent cassée. Et j'ai trouvé ça charmant. Alors moi, j'étais pas du tout là pour trouver l'amour ou quoi que ce soit. D'ailleurs, à l'époque, j'avais un mec, ce qui fait partie de l'histoire aussi. Et donc, je sais absolument plus de quoi on a parlé, de ce dont on parle, sans doute, quand on se rencontre sur un site pareil, c'est-à-dire d'absolument rien et de tout. Et j'ai fini par passer la nuit avec. Donc la première nuit que j'ai passée avec mon mec, c'était sur Chatroulette. Et alors qu'il était torse nu, il a fini par se rhabiller, ce qui est quand même assez exceptionnel sur Chatroulette. Je pense que c'est plutôt l'inverse d'habitude. Les gens se rencontrent habillés et finissent par se dessaper. Et on a décidé de se recontacter, sauf que le site a planté. Et on n'avait pas pris nos contacts respectifs. Et le principe de Chatroulette, c'est que c'est du hasard. Et que donc il est extrêmement difficile de retrouver quelqu'un sur qui tu es tombé. Et magie de la rencontre, magie de l'amour, je suis retombée tout de suite sur lui. Et donc on s'est échangé nos contacts Skype. Donc j'ai fini la nuit sur Skype avec lui.
Et sur Chatroulette, qu'est-ce qu'il attendait de toi au début ?
Alors, qu'est-ce qu'il attendait de moi ? Moi spécifiquement, je ne saurais pas te dire. Par contre, il était sur Chatroulette pour chercher du sexe. Ce qui explique son... En fait, on appelle ça le cadrage Chatroulette. Enfin, moi, j'appelle ça le cadrage Chatroulette, c'est-à-dire que tu vois une partie du bas du visage, le torse. Alors, les mecs sont soit devant leur bureau, devant leur PC, soit dans leur pieu. Et tu zappes, et tu attends de tomber sur la perle rare qui va te montrer sa nichon et faire une sexcam. La particularité de Chatroulette et de tous les sites qui fonctionnent sur ce principe-là, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui recherchent du sexe, mais très peu de femmes qui sont à la même démarche. Donc en fait, les gens tournent, les mecs se regardent la bite mutuellement. C'est assez intéressant. Donc lui était là pour rechercher une sexcam. chose que je faisais moi par ailleurs quand ça me prenait, quand m'en prenait l'envie, ça dépendait de mon interlocuteur, mais je ne recherchais pas ça. Donc c'est pour ça que c'est drôle qu'on se soit mis à discuter et au final qu'il se soit rhabillé, c'est-à-dire qu'il a abandonné son projet de plan cul, internet, parce que il est tombé amoureux de moi et de mon personnage en tout cas, puisque tu te présentes quand même sous un personnage. Moi, à l'époque, j'avais un filtre rose sur ma webcam. J'avais des lunettes de soleil pour pas trop être reconnaissable, on va dire, et jeter une petite touche de mystère. Et j'avais mon casque sur les oreilles, j'écoutais de la musique, et puis je faisais des trucs à côté. Donc, je sais pas, quelque chose là-dedans lui a plu. On a parlé de beaucoup de choses sans intérêt, et ça a matché, quoi.
Quand tu discutais avec lui sur Chatroulette, et ensuite sur Skype, en tout cas, tous les moments que tu as passés avec lui avant de le voir, quelle image tu avais de lui et qu'est-ce qui te séduisait dans son personnage ?
Je sais pas, comme quand tu passes un bon moment avec quelqu'un parce que t'apprécies. Alors, en l'occurrence, ça reste virtuel comme relation, au sens où t'as pas de relation de peau à peau ou de. On n'avait pas la voix, c'est-à-dire qu'on ne se parlait pas. On écrivait. Ça, c'est quelque chose que j'ai oublié de préciser. Je parle très peu par webcam. Je chatte. Donc, tu as la visio et tu chattes.
Pourquoi tu parles très peu par webcam ?
Parce que je pense que j'ai commencé à avoir des discussions sur Internet par chat. Et le fait de passer à la voix me semble complètement bizarre. J'ai pas envie de parler aux gens, en fait. J'ai envie d'échanger avec les gens que je connais pas, mais j'ai pas envie de parler aux gens. C'est pas que j'ai pas envie qu'ils entendent ma voix ou que j'ai pas envie d'entendre la leur, mais je trouve que c'est un rapport qui est par chat beaucoup plus désinhibé et qui est beaucoup plus intime, parce que je pense qu'on écrit des choses qu'on se sent pas capable de s'entendre dire. Et aussi, raison purement pratique, c'est qu'à l'époque j'habitais chez ma mère et que je passais mes nuits à chatter et que ça fait beaucoup moins de bruit que de parler à quelqu'un.
Pour en revenir donc à ton copain, comment s'est passée la première rencontre entre guillemets dans la vraie vie ?
Alors comment s'est passé ? Donc il m'a un peu fait la surprise de venir, je saurais plus dire combien de temps après qu'on se soit rencontrés sur Chatroulette. Je dirais deux mois, quoi. On a parlé sur Skype d'abord, tous les jours. Et il m'a fait la surprise de venir. Il m'a dit de l'attendre à l'endroit où sa copine, qui l'accompagnait à Paris en voiture, avait rendez-vous. Donc j'y suis allée. Je me suis dit, ah, comment je m'habille, nanana. Bon, j'ai essayé de faire le moins possible d'efforts parce que je voulais pas être dans une démarche de séduction, puisqu'on se connaissait déjà, finalement. Donc, il n'y avait pas à séduire. Donc, j'y suis allée, je me suis assise dans le bar. Moi, je pensais qu'on allait passer la soirée là-bas. J'avais aucune idée du tout de ce qu'on allait faire, de comment ça allait se passer. J'y suis allée vraiment avec l'esprit blanc. Voilà. Et donc, je l'ai attendu deux heures, je crois. Les gens commençaient à s'inquiéter, tu vois, de voir cette fille assise au bar et qui fait rien. Elle dit, viens avec nous. Je dis, non, j'attends quelqu'un. Et au final, il est arrivé. Il m'a appelé, il m'a dit « je suis là ». Alors évidemment, le cœur commence à battre quand même, même si tu t'es figuré que tout va bien, c'est ok, que t'as l'habitude. J'ai quand même l'habitude, à l'époque, de rencontrer des gens IRL, comme on dit, in real life, que j'ai rencontrés sur Internet. Là, il y avait quelque chose de spécial, parce que il y avait un truc entre nous que je me figurais ou qui existait, mais en tout cas que je ressentais, qui faisait que c'était pas pareil. Parce que je pense que lui n'a jamais rencontré personne sur Internet avant moi, pour le coup. Donc je sentais une sorte de responsabilité, j'ai l'impression d'être l'élu. Et donc il m'appelle, je le vois passer en voiture devant le bar, et puis il passe. Une première vision, il passe. Donc en fait, il m'avait pas reconnu. Et donc il a fait le tour et il m'a dit viens, sors. Donc je sors, je rentre dans la voiture. Donc voilà, premier contact, je le vois passer. Deuxième contact, je rentre dans sa voiture et voilà, je suis assise dedans, à côté de lui. Et qu'est-ce que je fais maintenant ? Est-ce que je dis bonjour ? Est-ce que je l'embrasse ? Est-ce que je dis ça va ? Voilà. Alors là, pour le coup, la relation qu'on avait, où on se parlait tout à fait naturellement, complètement complètement à l'ouest.
Gêné.
Un petit côté gêné et un petit côté on veut pas être gêné. Donc doublement gêné. Et au final, je crois que je l'ai embrassé sur la joue. À l'époque, il avait pas de barbe. Maintenant, il a une grosse barbe. Et la première image que j'ai de lui quand il passe devant le bar, c'est oh, putain, il a l'air vieux. Et je me souviens de cette idée-là, je lui ai dit d'ailleurs, hein, mais oh, putain, il a l'air vieux. Parce qu'il a 14 ans de plus que moi. À l'époque, j'avais 23 ans, lui en avait 38. J'espère que ça fait 14. Et je me dis merde, en vrai, c'est pas pareil. Et après, je suis rentrée et c'est dans sa voiture et ce sentiment-là s'est dissipé. Mais ça me fait rire de voir ça comme ça. Et donc, je l'ai embrassé sur la joue et il a roulé. Je me dis, mais on va où? On fait quoi? Je sais pas. Donc, on a roulé. Je ne sais plus du tout de quoi on a parlé. Sans doute de ça, du fait qu'on était gênés et que voilà, j'étais dans sa voiture et que ah, ça y est quoi. Il y avait un petit côté ça y est, quelque chose commence. Et on s'est garé péniblement à Paris, comme peuvent comprendre les Parisiens, et on est allé dans un café, je crois. Et je crois qu'on a passé la soirée à se rouler des pelles, comme des ados, et à se toucher. Et j'ai vraiment souvenir de le toucher. Il n'y a que ça qui nous manquait, en fait. De se toucher. Mais on s'est touché. Quand je dis toucher, c'est pas tripoter. On s'est touché comme si il fallait prendre la peau dont on avait manqué jusque-là, quoi. Je pense, une fois qu'on se retrouvait seul, vraiment l'un face à l'autre, comme on était sur Skype, est-ce que ça allait faire pareil? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui allait tomber, quoi? Et on n'a pas dormi de la nuit. Et il devait ramener sa coloc le lendemain. Et donc il est reparti comme ça au petit matin. Et on s'est dit, putain, est-ce qu'on se revoit, quoi?
Toi, t'avais envie de le revoir à ce moment-là?
Ah, mais moi, si tu veux, à ce moment-là, j'étais. Ça m'a quitté quelques mois après, quand même. Mais à ce moment-là, c'était. J'étais love, quoi. J'étais super love.
As I awoke this morning, I had a question to ask the world. I ask, where is love? I was told love is understanding, truth and peace of mind, satisfaction of soul, and sometimes just being kind.
Le cœur a ses raisons que la raison numérique ne modifie pas toujours. Et nous aussi, à l'atelier, nous sommes super love. Pourquoi? Parce que cette exploration au cœur des méandres de ces amours connectés nous a ramenés à quelque chose de simple. De nouveaux parcours amoureux se forment au détour des plateformes, les désirs se réinventent ou se renouvellent à grand renfort de textos frénétiques, de sextos enflammés ou de simples chats bavards et enjoués. Mais quand on regarde de près toutes ces histoires, ce qui saute aux yeux, c'est que le numérique et tous ses outils ne nous imposent rien. C'est plutôt même le contraire. Ils sont à notre disposition. En revanche, deux choses méritent d'être dites avant de se séparer. Comme toujours, et parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un malentendu, les individus les plus connectés ne sont pas les plus malheureux en amour. C'est pas moi qui le dis, c'est notre sociologue Marie Bergström. Et ces hyper-connectés sont peut-être même les plus lucides sur les limites de ces outils, mais aussi sur les possibilités que nous offrent les réseaux pour renouveler le désir ou pour prolonger une idylle. Un fait intéressant également. Même si ce sont les jeunes de moins de 30 ans qui utilisent le plus ces sites de rencontres, une majorité de ces utilisateurs arrivent ici suite à l'échec d'un premier amour, après une séparation, après un divorce ou après un accident de la vie. Autrement dit, l'amour connecté, c'est aussi la possibilité d'une nouvelle vie amoureuse, d'une rencontre hors de son cercle d'amis, loin des bulles de filtres qui nous enferment, elles, sur les réseaux sociaux. En résumé, et osons le mot, c'est la possibilité d'un nouveau coup de foudre. Des amours connectés, l'intimité à l'épreuve des swipes, des snaps et des likes. Un reportage plein d'amour de Manon Mella, merci.
Merci.
Avec la complicité de Mélissa Barra que l'on retrouvera la semaine prochaine pour le second volet de cette série. Si d'aventure vous avez peur de ne pas pouvoir attendre l'émission de samedi prochain pour en entendre plus encore, retrouvez dès demain un nouveau témoignage sur nos réseaux sociaux. L'Atelier des médias, une émission préparée par Mélissa Barra, Constance Léon, Manon Mella, Marie-Stéphanie Servos et Camille Deloche, à la réalisation Simon de Creuse, au micro Julien Lebotte. L'atelier des médias vous embrasse, vous êtes sur RFI. Merci d'être à notre écoute. It's not unusual.
International. Ali Ad.